Et donc, bien premier Nobel de la semaine, celui de médecine ce matin. Il revient à un trio de chercheurs, les deux Américains William Kaelin Jr., Greg Semenza et le Britannique Peter Radcliffe pour leur recherche conjointe sur l'hypoxie.
Et l'hypoxie, c'est lorsque l'organisme se trouve en manque d'oxygène. Et depuis les années 90, leurs travaux ont permis de mieux comprendre comment les cellules s'adaptent aux changements dans leur taux d'oxygène. En travaillant sur le gène de l'EPO, une hormone qui est impliquée dans la régulation du nombre de globules rouges, Semenza a découvert une molécule qui s'appelle IF, une protéine qui tient un rôle dans le processus d'oxygénation. Leurs découvertes ont ouvert la voie de nombreuses pistes thérapeutiques, notamment en cancérologie. Myriam Bernaudin est chercheuse CNRS. Elle dirige le laboratoire Imagerie et Stratégie Thérapeutique des pathologies cérébrales et tumorales de l'Université de Caen.
À travers la compréhension de comment marche le gène de l'EPO, ils ont pu montrer, en particulier Semenza, qu'il existe un facteur de transcription qui se met sur le gène de cette protéine et qui va induire du coup la synthèse de cette protéine quand il y a justement un manque d'oxygène. Et il a mis en évidence vraiment dans ce gène une petite séquence qu'on appelle des HRE pour Hypoxia Response Element, qui sont des séquences où justement va se fixer ce facteur de transcription que l'on appelle IF, qui est engendré après ce qu'on appelle l'expression en fait du gène qui code pour, là en l'occurrence le premier gène c'était l'érythropoïétine qui a été étudié, mais depuis on en est à 300 gènes qui sont sous le contrôle de ce facteur de transcription. Après aussi, Peter Radcliffe et puis Kaelin ont montré après tout ce processus de régulation par d'autres protéines qu'on appelle PVHL et prolylhydroxylase. Ce facteur de transcription, quand on est en présence d'oxygène, normalement dans des conditions, on va dire, physiologiques, de base, il va être continuellement détruit, dégradé par ce processus qu'ils ont décrit. Et lorsqu'on est en manque d'oxygène, ce mécanisme de dégradation continue de ce facteur de transcription vont être arrêtés et donc permettre du coup une augmentation de ce facteur IF dans nos cellules et du coup la transcription de gènes qui vont permettre d'adapter la cellule à ce manque d'oxygène.
Voilà pour le prix Nobel de médecine 2019. On continue évidemment tous les jours, demain avec la physique, après-demain avec la chimie, dans le journal des sciences avec Natacha Trioux, mais sur franceculture.fr aussi, au plus tôt possible après l'annonce des lauréats avec les travaux du camarade Pierre Ropert qui s'occupe de tous les articles science sur notre site franceculture.fr. Et on passe au bref. Une étude parue dans la revue Science renforce l'hypothèse du monde à ARN.
L'hypothèse du monde à ARN, c'est l'hypothèse selon laquelle l'origine de la vie sur Terre est basée sur l'ARN avant l'émergence de l'ADN. Des chimistes allemands ont réalisé une expérience dans de l'eau chaude à partir de quatre molécules organiques, A, U, C, G, des éléments de base des nucléotides. Et ils ont réalisé en laboratoire une soupe prébiotique. L'étude montre que les cycles entre conditions humides et conditions sèches fournissent les environnements nécessaires pour achever la formation des bases nucléiques.
Les chercheurs d'IBM en Suisse et ceux de l'université d'Oxford en Grande-Bretagne viennent de synthétiser un anneau de pur carbone.
Un cyclocarbone, une molécule composée de 18 atomes de carbone. Jusqu'à présent, on pensait que ce cyclocarbone ne pouvait avoir qu'une existence théorique. Cette molécule a été assemblée grâce à un microscope à force atomique et sous une température de moins de 168 degrés. Dans cette étude parue dans Science, les résultats suggèrent que cette nouvelle chaîne de carbone a des propriétés de semi-conducteur.
Et selon une étude parue dans The Journal of Environmental Psychology, l'idée que l'on se fait d'une couleur dépend de notre environnement météorologique.
Et des chercheurs suisses ont examiné les données d'une enquête sur plus de 6000 personnes dans 55 pays et sur leur perception des couleurs. Et en l'occurrence, pour le jaune. Cette couleur est généralement associée à l'idée de gaieté, du moins, tu vois, c'est clair, hein, plus on s'éloigne de l'équateur et plus on subit la grisaille. En Égypte, par exemple, ces couleurs sont synonymes de joie à 5%. En revanche, en Finlande, là où le soleil se fait plus rare, le jaune représente le bonheur à plus de 80%.